Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une histoire du management qui s'arrête sur la période de l'Allemagne nazie. L'organisation optimale des forces de travail, faire mieux avec moins, était une préoccupation centrale du Troisième Reich. Il a produit toute une réflexion managériale qui a continué de se diffuser après-guerre. Johann Chapoutau en a fait la matrice de Libre d'obéir, publié chez Gallimard. L'historien sera notre invité à 12h55. Mais avant cela, notre invité est une star de la bande dessinée, un homme capable de pondre un chef-d'œuvre tous les 2 ou 3 mois, mais qui a connu, comme tout artiste, la panne d'inspiration. Qu'à cela ne tienne, il a trouvé le moyen d'en faire un album. Thérapie de groupe, L'étoile qui danse sort chez Dargaud. Manu Larsenet est notre invité à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr.
La grande table. Raphaël Bourgois.
Bonjour Manu Larsenet.
Bonjour monsieur.
Le retour à la Terre, Le combat ordinaire qui a reçu le prix meilleur album en 2004 à Angoulême, Blast, puis le rapport Brodeck adapté du roman de Philippe Claudel, autant d'albums, de séries qui ont fait votre succès et vous ont installé donc, comme je le disais, comme l'un des auteurs de BD majeurs de ces 20 dernières années. À chaque série, son style graphique, du coloré Retour à la Terre au très sombre Blast, mais à chaque fois, en toile de fond, une seule question, comment faire avec le monde quand on est complètement dépressif? C'est aussi la question qui taraude Jean Eudes de Cajot-Goujon, le héros de Thérapie de groupe, votre dernier album, en quête d'idées pour une BD, qui a connu le succès, un peu comme vous, se retrouve face au syndrome de la case blanche. Il se réfugie donc dans la chimie des médicaments, enchaîne les projets nuls en quête d'idées du siècle. Et ben, mine de rien, mine de crayon, une réflexion sur l'inspiration et la place du BDiste dans l'histoire de l'art. Des peintures pariétales au Snoopy de Charles Schulz, en passant par la Renaissance italienne ou Paul Cézanne. La première question s'impose d'elle-même, Manu Larsenet, d'où vous viennent toutes ces idées? J'avoue, je l'ai piqué dans votre album.
Une bonne question. Les idées ne me viennent pas. Comme je l'écris dans l'album, il faut aller les chercher. Non, j'aime bien cette idée que ça nous tomberait dessus, vous voyez, on se balade le matin, paf, dans la forêt, on dit, ah, une idée! Non, faut aller chercher. Et puis, il faut aller chercher profond pour certains d'entre nous, en particulier pour moi. En vieillissant, j'ai envie de faire des trucs qui sont pointus. C'est-à-dire d'être meilleur maintenant. Voilà, j'en ai marre de laisser passer les choses dont j'ai honte après. Donc maintenant, je travaille et du coup, ça provoque beaucoup plus de questionnements, beaucoup plus de pages jetées et que de pages faites.
Je vous demanderai pas de quoi vous avez honte dans votre carrière, Manu Larsenet. Est-ce que l'inspiration, d'une façon ou d'une autre, je le disais un peu sur le ton de la plaisanterie, puisque vous-même vous présentez dans cet album, en tout cas votre héros, de Cajot-Goujon, comme quelqu'un, un auteur de bande dessinée qui a connu un succès fulgurant et international. Mais c'est vrai que vous êtes malgré tout, Manu Larsenet, un auteur à succès. Vous en rigolez, mais c'est une réalité. Et est-ce que l'inspiration est liée au succès, c'est-à-dire de façon positive ou de façon négative?
Je sais pas trop ce que c'est que l'inspiration. C'est ce que j'essayais de dire dans le livre. Alors d'abord, il y a les muses qui nous donnent l'inspiration. Après c'est Dieu. Après non, c'est pas quelque chose qui nous est donné. Et puis, c'est pas tant le manque d'inspiration dans le livre que le manque de bonnes idées. Des idées pourries, on peut en trouver 10 à la minute, c'est pas un problème. Mais après, quand vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus personnel, un petit peu plus proche de ce que vous êtes et tout, là, pour le coup, c'est moins large, ça se resserre. Et donc, il faut creuser en soi pour aller trouver des sujets, quoi. Et puis, juste une toute petite correction, il est pas dépressif, il est bipolaire. Donc, il alterne les phases de dépression et, au contraire, d'immenses joies et de frénésie.
Oui, vous faites bien de me corriger.
C'est important, c'est important.
Très important. Et puis on va y revenir, Manu Larsenet, puisque c'est aussi quelque chose sur lequel vous revenez régulièrement dans vos ouvrages et dans vos albums. Mais peut-être encore un mot sur cette idée de l'inspiration, en tout cas des bonnes idées qui viennent ou qui ne viennent pas. L'idée du siècle, c'est un petit peu.
C'est l'idée du siècle.
C'est un petit peu ça que recherche tout auteur de bande dessinée.
Mais oui, c'est l'idée qui va vous faire sortir du lot, qui va vous faire sortir même de vous-même. Vous allez passer une étape. Au lieu de faire tout le temps des trucs, vous êtes content, moitié content, puis un jour vous faites un truc génial. Imaginez, ça doit être génial. Je sais pas, j'ai pas essayé encore, mais...
Mais alors, quand on n'y arrive pas dans une société de winners comme la nôtre, où il faut être un gagnant, on peut peut-être tenter d'être le meilleur artiste fini du monde, réussir sa finitude, vous dites dans cet album. avec par exemple cette tentative, parce qu'il y a aussi beaucoup d'inventions graphiques, on va y revenir. C'est d'habitude vous changez de style selon les albums ou selon les séries, là c'est à l'intérieur du même ouais. du même album, on va évidemment en parler, mais là il s'agit de Jean-Jacques et Bruno, l'aventure au bureau, c'est ça la finitude ultime.
Tout le monde me parle de ces pages là oui, c'est ouais. c'est les plans fixes avec des personnages de bureau en costume cravate sans visage. Donc vraiment des gens lambda, quoi, et puis qui disent des grosses énormités. Mais ça, c'était un clin d'œil à Lewis Trondheim, ça. Tout le monde me dit c'est un autre. Et en fait, non, c'est Lewis qui a inventé ça dans les années 2000. Les plans fixes avec une chute à la con à la fin, c'était vraiment Lewis qui faisait ça. Mais je me moque pas, c'est vraiment... En fait, mon personnage fait ça et se rend compte qu'il pourra pas en faire un livre ou une carrière ou une œuvre, vous voyez. C'est-à-dire que c'est vachement marrant, c'est un coup, ça marche sur une page ou deux. Mais ça ira pas plus loin. Et c'est toutes ces idées-là qu'il faut évacuer pour arriver à dire après ce qu'on veut dire, quoi.
Il y a malgré tout un tour de force, Manu Larsonnet, dans cet album, c'est de réussir à faire croire que vous construisez tout un album sur des mauvaises idées qui s'enchaînent. Et voilà, on a l'impression au début que ça va peut-être être une sorte de catalogue des idées, des fonds de tiroir de Manu Larsonnet, mais en réalité, c'est un peu plus que ça, c'est même beaucoup plus que ça, c'est un véritable album qui se tient.
C'est surtout pas ça, c'est surtout pas des fonds de tiroir. C'est-à-dire que quand, par exemple, là, j'avais plus trop d'envie, j'ai lu un livre sur l'iconographie du Moyen-Âge. Donc, pour le tome 2, je suis en plein dessin du Moyen-Âge. En fait, des fois, ça part d'envie graphique, des fois d'envie conceptuelle, ou des fois d'envie de mots, d'écriture. Et j'essaye de, qu'il n'y ait pas de récit pour pouvoir placer tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas d'une page à l'autre d'une manière huilée, que ça marche. Mais, juste pas faire un récit de pirate, un récit de western, un récit de... Juste essayer de faire un truc à la hauteur de ma psyché, c'est-à-dire plutôt chaotique, plutôt déséquilibré, avec plein de choses différentes. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de textes, beaucoup d'images, beaucoup de références, pour qu'on le lise pas en 3 minutes, quoi. C'est le problème de quand on fait des gros nez, souvent les gens essaient de les lire très vite. Et là, j'ai voulu empêcher ça.
Les gros nez, pour les auditeurs qui seraient pas familiers de la bande dessinée, c'est une certaine...
C'est la bande dessinée caricaturale, en fait. Ouais. C'est de la bande dessinée d'humour à l'ancienne.
À la Florence Estac.
À la Florence, mais ouais, à la Florence, mais aussi à Franquin, aux anciens, quoi. Rezer, ils faisaient des gros nez. D'ailleurs, les miens viennent directement de ceux de Rezer. C'est un code, en fait. C'est un code qui fait que c'est de l'humour. Et j'aime bien me servir des codes parce que comme je vais pas faire exactement de l'humour, c'est pas que ça. C'est marrant de faire croire que.
Même si on rigole beaucoup à vous lire Manu Larsonnet. Alors, avoir une idée, c'est bien. En avoir plusieurs, c'est peut-être mieux. Mais encore faut-il ensuite se mettre au travail. Et ça, c'est aussi quelque chose de compliqué. Écoutez Sampé qui en parlait justement de cette difficulté à se mettre à sa planche à dessin.
Ce matin, je me suis levé. Il était pas très tard d'ailleurs. Et ensuite, je partis vers un petit café prendre un double noir avec un peu de lait chaud. Ce qui était un grand plaisir pour moi. Et puis, je suis revenu, tout en râlant, en me disant, il faudrait vraiment que je fasse un dessin, il faudrait que je fasse quelque chose, etc. Donc ça me prend du temps. Vous savez, râler, ça prend beaucoup de temps. Hein. Et, non, c'est pas possible, je vais arrêter un jour, ça peut pas continuer comme ça. Alors j'ai sûrement téléphoné à un copain pour lui raconter que ça pouvait pas continuer comme ça. Comme ça fait à peu près 20 ans qu'on se dit que ça ne peut pas durer comme ça, on est quand même conscient du fait que ça dure comme ça. Alors ça nous réconforte un petit peu. Et j'ai essayé de me mettre au travail tout en râlant. Il y a des jours comme ça où je ne peux pas travailler et je m'acharne. Ce qui fait que dans un sens, je travaille. Mais comme je ne fais pas, je ne produis pas, la soirée arrive, j'ai rien fait, je me dis tiens, j'aurais mieux fait de ne rien faire. Parce qu'en réalité, j'ai quand même fait, puisque j'ai essayé de faire.
Voilà, on ne peut pas ne pas rire à ce passage de Sampé. C'était dans Le Bon Plaisir sur France Culture en 1996. Sampé qui est évidemment l'un de vos maîtres, Manu Larsonnet. Ouais. Je dis évidemment parce que je vois mal un auteur de bande dessinée qui me dirait non, moi Sampé, j'y crois pas du tout. Et, mais là, il décrit un petit peu la journée où on fait en ne faisant rien. Vous avez deux planches comme ça sur le sujet pendant que votre femme vétérinaire règle à peu près tout de 7h du matin à 23h25 des enfants à la voiture, la fameuse charge mentale, pendant que vous avez bien...
Moi j'ai pas de charge mentale à part ça, moi non.
La charge psychique, c'est ça que vous dites, vous avez bien réparti les charges.
À elle, la charge mentale, à moi, la maladie mentale.
La maladie mentale. Est-ce que cette question évidemment de se mettre au travail, elle est centrale? Je disais tout à l'heure un peu en rigolant que c'est presque un topos, enfin que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les bandes dessinées, la panne d'inspiration, on pense à Franquin, on pense à Edika, évidemment, sur ce sujet. Mais seuls les artistes de bande dessinée, manifestement, sont capables d'en faire des albums, on a l'impression.
C'est plus dur de faire un tableau sur la page blanche, c'est vrai que c'est... Mais c'est... Enfin, je le vois, je le résumerai pas comme la page blanche. C'est vraiment la recherche de quelque chose. J'essaie de montrer, en fait, que le travail artistique, en tout cas le mien, ça se fait surtout autour de la table. Ça se fait sur, comme disait, exactement comme disait Sempé, c'est-à-dire, il se fait en évacuant les choses d'abord. D'abord, il faut faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire, donc faut faire des choses, et puis après on se dit ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et puis après on trouve entre les deux un petit chemin qu'on peut suivre, c'est pas bon, on en retrouve un autre. C'est un peu comme la vie depuis les origines, c'est comme un arbre. Il y a des impasses, hop, on remonte, on reprend d'autres branches, ça marche pas, on reprend. Et puis soudain, vous trouvez un truc avec un bourgeon, donc vous pouvez là créer un petit bosquet, puis après vous reprenez votre route, vous remontez le long de là. C'est jamais aussi simple qu'on croit de trouver quoi dire. C'est très clair ce que je raconte.
Si, mais sinon, toi, on dirait, vous savez, pour un animateur de radio, évidemment, trouver quoi dire, c'est à peu près notre lot quotidien, Manu Larcenet. Alors, on parlait tout à l'heure de la maladie qui est la bipolarité, qui est une maladie dont vous souffrez depuis longtemps et que vous avez mise en scène. En tout cas, vous êtes mise en scène dans ces états à la fois très exaltés et très dépressifs qui caractérise cette maladie. Percevoir le monde à travers cette maladie, ça doit être assez compliqué. Quand la chimie s'en mêle, ça l'est encore plus.
Alors, dans mon cas personnel, moi, ça m'a sauvé. C'est-à-dire que j'ai cherché des années un traitement, un docteur qui accepte de m'écouter et d'écouter mes conneries. Et donc, quand on a commencé à me donner des traitements, effectivement, c'est devenu tout de suite beaucoup plus acceptable. Tout est devenu beaucoup plus acceptable. Et donc j'enrage, j'ai au fond de moi une colère contre les 24 premières années de ma vie et les gens que j'ai croisés pour m'avoir tant retardé, quoi. Mais oui, enfin, ouais, voilà.
Parce que
la chimie, c'est important. En fait, il faut pas. On a longtemps. Je me rappelle même les Berruriers Noirs avaient une chanson en disant c'est mal. C'est extraordinaire. Voilà, quand on est dedans, c'est extraordinaire de savoir qu'on a un médicament qui va calmer, non pas, qui va pas vous soigner, c'est incurable, mais qui va permettre d'enlever des barrières ou d'atténuer des symptômes qui sont des handicaps. Par exemple, moi, il y a une période de ma vie où je ne pouvais plus sortir de chez moi, c'était absolument impossible. Et grâce au traitement qu'on m'a prescrit à ce moment-là, j'ai pu retrouver une vie, pas normale parce que c'est pas possible, mais une vie sociale possible. Et sans traitement, je pense que vraiment, vraiment, j'aurais décroché beaucoup plus tôt.
Et vous parlez, même dans cette bande dessinée dont on parle aujourd'hui, un thérapie de groupe, L'étoile qui danse, c'est le titre de ce premier album. Votre fils et votre fille vous retrouvent en bas, enfin c'est peut-être pas les vôtres, c'est ceux de votre personnage, mais bon, ça va être difficile de séparer. Vous retrouvent un peu dans cet état d'exaltation. Tout à l'heure, il dit « Papa a fait un voyage initiatique encore ». C'est comme ça que vous vous décririez
Voyage
initiatique.
Souvent, c'est... Mais oui, souvent, parce que les épiphanies, qu'elles soient en artistique ou dans sa vie personnelle, c'est à chaque fois un voyage, quoi. C'est chaque fois apprendre quelque chose sur soi de très important. Dans certains cas, certains se laissent vivre et c'est extraordinaire pour eux. Moi, je peux pas me laisser vivre. Il faut que je bosse à chaque instant pour savoir pourquoi je réagis comme ça. Je suis en constante analyse, en constante auto-analyse. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Puis des fois, c'est épuisant aussi.
Épuisant. D'ailleurs, c'est une maladie, la bipolarité, qui a fait son émergence sous sa forme, sous différentes formes de création artistique. Donc, ça fait un bout de temps que vous la traitez sous forme de bande dessinée. Mais je pense par exemple à la série Homeland, dont l'héroïne principale, Carrie Mathison, est bipolaire. Et puis, il y a évidemment ce rappeur américain qui en a fait un album, Kanye West. Life like this is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ like. I was screaming at the referee, just like Mike. Looking for a bright light. Seagull, what your life like? Riding on a white bike, feeling like a sight bike. Pressing on a gas, supernova for a night light. Screaming at my dad and he told me it ain't Christ like. But nobody never tell you when you're being like Christ. Only ever seeing me, only when they need me. Like if Tyler Perry made a movie for BT. Searching for a deity, now you wanna see it free. Now you wanna see it free, let you see it through your piece. Tell me what your life like, turn it down a bright light.
was driving with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way, being on my best though. Block up on the text though, nothing else next though. Not another word, letter, picture or a decimal. Wrestling with God, I don't really want to rest so. Man, it's really life-like, everything in my life. Arguing with my dad and he said it ain't Christ-like. Man. Somebody only close to could get you like off your. I be on my. I woke up this morning, I said my prayers, I'm all doing good. I try to talk to my dad, get him some advice. He starts spazzing on me. I start spazzing back. He said, they ain't Christ like. I said, ah!
Et voilà, Kanye West, votre artiste favori, Manuel Arsenet.
Je croyais qu'on était sur une radio culturelle.
C'est une radio culturelle.
Et pourquoi il est bipolaire lui aussi ?
Mais oui, complètement, il en a fait tout un album.
Ah, c'est intéressant.
Pour expliquer justement à quel point ça l'aidait dans sa création en tout cas.
Ça l'aidait ?
Ouais, ouais.
Ah, c'est bien.
Vous ne le voyez pas comme ça ?
Je vous conseille un livre qui est sorti il y a pas longtemps, qui est l'intégrale des lettres de Vincent Van Gogh envoyées à son frère Théo. Et vous allez voir si ça le fait rigoler lui. Non mais
bon, écoutez, passons. C'est
non mais passons. Je vous ai pas... Pourquoi vous m'avez mis Kanye West? Bon, écoutez, il y a tellement de belles musiques.
C'est pas faux. La prochaine fois, je vous consulterai. Un non, poste gentil, de programmateur musical vous attend sur France Culture. Manuel Arsenet. Un mot tout de même sur le titre de cet album, L'étoile qui danse, puisque c'est quand même une citation de Nietzsche. Hein.
Bah,
excusez-moi du peu.
Pour m'emmerder. Hein.
Et il s'agit de toujours dans cette recherche de l'idée, de l'idée absolue, de l'idée du sexe, du siècle.
Oh le lapsus! Oh le lapsus!
C'est un lapsus terrible à l'antenne. Dire que il faut aller chercher dans le chaos qui est en vous, d'aller trouver cette petite étoile.
Bah, Sir Nietzsche, il dit qu'en fait, il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. Alors évidemment, l'étoile qui danse, c'est l'œuvre. Et le chaos en soi, c'est le chaos en soi. Donc, c'est pas d'hier, c'est pas de moi que ça vient. Ça vient depuis des années, des années. Alors, c'est une partie. Il y en a d'autres qui disent non, non, on s'en fout. On s'en fout d'avoir du chaos ou pas. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont tout à fait sains d'esprit et qui font des choses magnifiques. Donc, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est assez éclairant qu'un type, il y a quelques centaines d'années, je sais pas combien, avait déjà analysé ça avec des magnifiques mots, parce que c'est une très belle phrase, j'aurais jamais pu dire ça, faut trouver ça quand même. Donc voilà, ça éclaire mes journées quand je trouve un type qui dit un... Mais ça va, alors dans le deuxième tome, je vais heurter ça avec la phrase de Boileau, que vous devez connaître, parce que c'est la plus connue, où il dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. » Et mon père m'a répété ça. Sauf que là, moi, je dis à Nietzsche, à Boileau, quand on conçoit pas, quand on n'a pas la possibilité de concevoir clairement les choses, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, dans le deuxième, il y a un débat entre Nietzsche et Boileau.
Ah, tout de même.
Bah oui, ils sont pas d'accord, faut bien. Hein.
Manuel Arsenet fait débattre Nietzsche et Boileau. C'est pas dans ce nouvel album, mais ce sera dans le prochain Thérapie de groupe, L'étoile qui danse. C'est donc publié chez Dargo.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Alors, on l'a dit, il y a une réflexion sur ce que c'est Manuel Arsenet d'être un auteur de bande dessinée. Il y a aussi une réflexion sur l'histoire de l'art. Une façon d'inscrire la bande dessinée dans l'histoire de l'art. Vous avez cité Vincent Van Gogh à l'instant. On le voit apparaître furtivement dans une des planches. Oui, oui, dans un décor. Il y a Vincent Van Gogh.
C'est bien possible. Non, mais
Dans un décor. Pas, c'est pas lui directement.
Non, parce que je vais l'utiliser après. C'est pour ça que je me flippais en me disant j'ai déjà fait.
Non, vous ne l'avez pas déjà fait. Il est dans un décor. En revanche, on voit la peinture pariétale, la Renaissance, Léonard de Vinci, Cézanne fait une apparition, on en parlera évidemment. Il y a aussi un questionnement sur le manga japonais, sur Naruto, qui n'est pas cité mais qu'on reconnaît bien pour ceux qui connaissent ce manga japonais. Inscrire la bande dessinée évidemment dans cette histoire de l'art, dans ce rapport à la peinture, c'est quelque chose qui vous habite depuis longtemps ou...
Oui, alors c'est-à-dire que moi j'ai fait plein de lycées et d'études d'art, donc du coup j'ai eu beaucoup d'histoires de l'art, et c'est un domaine qui m'a toujours passionné depuis l'école, donc je bouquine depuis l'école, et l'enchaînement, si vous voulez, des périodes dans l'art, c'est un peu comme l'enchaînement des périodes dans l'histoire, et c'est d'ailleurs très proche, on pourrait même raconter l'histoire du monde grâce à l'histoire de l'art. Et puis cette idée que de la grotte Chauvet jusqu'à moi-même aujourd'hui, je dessinerais pas autrement un Auroch. Je dessinerais pas autrement un
mammouth laineux.
Un mammouth laineux, par exemple. Ça veut dire qu'il y a une, des codes qui n'ont pas, qui sont les mêmes depuis 44 000 ans, je crois, c'est la grotte Chauvet. Et j'aime bien faire partie de cette lignée. Et tous les mecs comme moi comme Cézanne, on va dire, tous les grands peintres, tout le monde fait partie de cette lignée-là. Et ça me fait plaisir de faire partie de quelque chose.
Alors, je vous propose d'écouter un autre artiste. Il s'agit de Daniel Buren qui parlait justement de Cézanne.
Cézanne, je pense que, alors qu'il a parlé de la forme, il a parlé du cube et etc., enfin, toutes les formules qu'on connaît, je pense que c'est la couleur qui a été le cœur de ses recherches et de son travail. Mais dans le même moment, c'est vrai aussi de Monet, c'est vrai aussi de Matisse, bien sûr, c'est vrai de pas mal d'artistes, beaucoup d'artistes qui ont beaucoup travaillé sur la couleur pour cette raison que je pense absolument fondamentale, que la couleur, c'est la seule chose totalement irréductible dans le domaine de la peinture, si on veut, ou dans le domaine des arts visuels.
Alors voilà, Daniel Buren parlant de Cézanne qui fait une apparition dans votre album, qui vient regarder les planches,
mes planches ratées,
planches ratées, qui commence par s'en émouvoir, puisque ce n'est pas de la peinture, fait-il remarquer.
Il est très surpris.
Il est très surpris par cette bande dessinée qui est l'art de la répétition. Or la répétition, c'est l'antithèse de l'art, selon lui.
Exactement.
En tout cas, c'est ce qui nuit, fausse l'authenticité, si je l'ai bien lu. Et alors s'ensuit une sorte de combat façon peut-être pas manga, plutôt
comics.
Plutôt comics, ouais, en effet, dans le découpage des cases, où il vous assène à la fois des coups de poing et des phrases, hein, des phrases définitives. Quand la couleur atteint la richesse, la forme atteint ainsi aussi la plénitude. Des phrases, des véritables phrases de Cézanne.
Oui, toute la scène où il me frappe et il me raconte des trucs, ce sont des vraies citations de Cézanne.
Et donc il y a ce travail sur ces personnages qui ont marqué l'histoire de l'art, vous l'avez dit, de la grotte Chauvet en passant par la Renaissance italienne, puisque vous cherchez d'où vient l'inspiration et puis aussi d'où vient le gag. Le gag est-il né dans ce mammouth laineux qui propose un pull en laine à son fils? Dieu a-t-il inspiré le premier gag en mettant un poussin dans les mains d'une nativité de la Vierge Marie?
C'est important de rappeler que pendant longtemps, l'art a été inféodé à la religion. On se rappelle plus de ça maintenant. On a un art libre, l'art moderne, l'art contemporain, c'est un art complètement libre par rapport à la religion en règle générale. Mais avant, c'était l'inverse, c'est-à-dire que tout venait de Dieu, que l'inspiration venait de Dieu, c'était des œuvres pour Dieu, pour l'Église, pour... Voilà, ça a été un vrai choc quand l'art est devenu de l'art pour l'art. Et on s'en rappelle plus parce que pour nous maintenant c'est acquis. Mais enfin, il me semblait intéressant, si vous voulez, de remettre tout ça un peu dans l'ordre. D'abord, on dessine ce qu'on voit, même si on ne sait pas, puisque les peintures pariétales, on ne sait pas exactement pourquoi elles sont là. Après, on dessine ce que Dieu voit, puis après, on dessine ce que l'homme voit. C'est les trois grandes étapes, en fait. Et après, on dessine ce qu'on a à l'intérieur ou ce qu'on voit. Enfin bon, c'est juste ça, l'histoire de l'art. C'est trois grandes étapes qu'il n'est pas mauvais, parfois, de rappeler.
Alors il y a ces étapes, il y a aussi des exercices de style, je l'ai dit au début, c'est-à-dire qu'autant sur le plan de la typographie que sur le plan du dessin, vous faites plaisir, hein, on peut dire Manu Larsenet, il y a chez les auteurs de bande dessinée, quand on les connaît un peu, une sorte de fétichisme du matériel, une fétichisme du matos, de ses crayons, c'est peut-être pas votre cas, mais vous avez réalisé entièrement cet album, je crois, sur une tablette graphique. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi être passé à cet outil numérique plutôt que les crayons ou la peinture directement, comme vous l'aviez fait avec Brodeck, par exemple?
Alors, il y a une question de rapport personnel à la chose et puis une question générationnelle. Tout le monde a des tablettes. Tout le monde, maintenant, travaille sur son téléphone, sa tablette. Je vois pas pourquoi ce serait interdit aux dessinateurs. J'ai même eu des mails des gens qui me disaient que je trahissais. Vous voyez à quel point c'est stupide, quoi. Non, le papier... Et puis... ça faisait quand même 25 ans que je faisais ça sur papier avec de l'encre et des crayons et des machins. Donc je commençais un peu malheureusement à maîtriser certains gestes, à maîtriser le pinceau, à maîtriser la plume, à avoir exactement le joli trait. Et c'est dangereux parce que du coup on se sclérose à faire ça. Donc en reprenant, en bazardant tout et en prenant un nouveau mode de conception, parce qu'en fait, le dessin, un trait, vous partez du point A au point B, que ce soit sur une tablette graphique ou sur une tablette ou sur un papier, c'est la même chose. Par contre, le fait de pouvoir enlever ce trait en 3 secondes, alors qu'il faut du typex sur du papier, que c'est long, que c'est pénible, il y a une grande libération. Et moi, ça me permet de faire des collages. J'ai toujours aimé faire des collages. Et c'est vrai que certaines planches, je commence à les dessiner, j'arrête, j'en mets une case à la fin, chose que on peut pas faire sur un papier. J'en remets une autre, j'en enlève une. Ça permet de faire des montages, de créer ça un peu plus décontracté. Parce qu'en plus, c'est un peu stupide de dire ça, mais par exemple, quand j'étais un peu plus jeune et que j'étais pauvre, parce que maintenant, bon, on va dire les choses comme elles sont, une feuille de papier, ça coûte cher. Moi, j'achetais du Montval, c'était 5 francs la feuille. Et crois-moi, ça met la pression quand tu dessines et que tu rates sur du Montval, tu dis « Merde, j'ai perdu 5 euros !» Donc, enfin, 5 francs. Donc, il n'y a plus cette idée de la sacralisation de l'outil ou du support, il n'y a plus que le dessin. Et moi, ce que j'aime dans le dessin, c'est l'accident. Souvent, l'accident arrive et sur du papier, on est obligé de le virer. Là, je peux le prendre, le déplacer, le mettre d'un côté en me disant, bah, tiens, faudra que je réutilise ce trait qui ressemble à une montagne ou à un champ. Et hop, je me dis, ah oui, j'avais fait ça. Donc, je le reprends, je le recolle là et je redessine par-dessus. C'est presque affaire de collage pour moi, plus qu'autre chose. Et puis, le fait de pouvoir revenir sur ce que vous avez fait sans que ça prenne 3 heures à recouvrir de blanc, quoi. Le pomme Z, c'est nouveau dans l'art.
Une dernière question, Manu Larsenet, puisqu'on a parlé de Sampé. Il y a un autre auteur de dessinateur qui vous a beaucoup inspiré, qui est Cabu, que vous regardiez dans la Créa 2 le matin. Évidemment, vous voyez pourquoi je pose la question, c'est qu'on a célébré les 5 ans de l'attentat de Charlie Hebdo, commémoré plutôt que célébré les 5 ans de l'attentat de Charlie Hebdo en début de semaine. Qu'est-ce qui vous a apporté, Cabu?
Pour les junkies, on appelle ça le force call. C'est-à-dire que j'ai vu, quand j'étais tout petit dans Récréa 2, sa main dessinée, et la caméra dézoomée, et voir que cette main était en train de faire une image parfaitement parlante, alors que lui, il avait même pas de micro, il parlait pas à Cabu. Donc je me disais, ce type est tellement timide qu'on lui a même pas filé un micro, et quand il prend un crayon et un papier, eh ben il parle. Et moi, qui étais un enfant qui arrivait pas à avoir des contacts avec les autres, j'ai commencé à comprendre que le dessin, c'était des mots, que chaque trait est un mot. Et je suis devenu une star de mon collège en dessinant sur les cartables. Vous voyez, c'est des détails comme ça qui font qu'on s'aperçoit qu'on peut parler, en fait, qu'on peut parler avec des traits.
Manu Larsenet, Thérapie de groupe L'Étoile qui danse, c'est votre nouvel album en librairie le 10 janvier. Merci d'être passé par la Grande Table.
Merci à vous.